Il est 8h sur France Culture. Très bon réveil à tous, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Après le désastre, l'exode. Aux Bahamas, des centaines d'habitants tentent de fuir leur village enseveli sous les gravats et la boue après le passage de l'ouragan Dorian. Notre envoyé spécial est à Nassau, il nous racontera.
Nous rejoindrons ensuite notre correspondant en Israël où le Premier ministre Benjamin Netanyahou promet d'annexer la vallée du Jourdain s'il est réélu, un choix qui pourrait sembler stratégique mais qui est d'abord le résultat d'un objectif politique, vous le comprendrez.
Comment sanctionner l'homophobie dans les stades de football ? Les prises de parole s'enchaînent ces derniers jours en pleine polémique. Nous irons aux Pays-Bas, où le pays a réglé la question il y a une quinzaine d'années.
EDF fait état de problèmes de soudure sur certains réacteurs. Quel est le danger ? Nous vous expliquerons.
Et puis après cette édition, Frédéric Saïs nous rejoindra pour son billet politique. Et une question, faut-il reprendre les mots de l'adversaire pour le combattre ? Le bilan s'alourdit au rythme de l'avancée des secours. Aux Bahamas, l'ouragan Dorian la semaine dernière a fait au moins 50 morts. Ce chiffre est donné ce matin alors que les décombres restent nombreux, que les routes pour beaucoup sont encore coupées. Thibault Lefebvre a pu s'y rendre. Il est actuellement dans la capitale Nassau où convergent de nombreux réfugiés. Rencontre avec l'une d'entre eux.
Hier encore, elle vivait dans ce qu'il restait de sa petite maison cossue du quartier résidentiel d'Airock, au sud de l'île de Grand Bahama. Marie Ferguson a décidé en une matinée de tout abandonner avec son mari et ses quatre enfants. Une vie rassemblée à la hâte dans trois valises et donc une première nuit passée au milieu des 500 sinistrés, réunis depuis quelques jours dans un gymnase de la périphérie de Nassau.
C'est arrivé tellement vite. C'est quelque chose à quoi nous n'étions pas du tout préparé. Une des principales raisons pour laquelle nous avons décidé de partir, c'est parce que le pétrole a pénétré la nappe phréatique et on nous demande de ne pas dormir sur place.
Les fuites viennent d'une raffinerie norvégienne. Les toits des citernes ont été arrachés par le vent.
Et le pétrole est parti sur des 2 kilomètres à la ronde, a tout pollué.
Des dégâts monstrueux, ce sont les mots de Max Bordet.
Il a fait exploser du béton.
Ce bénévole du Secours Populaire était à Airock hier après-midi.
Les écoles ont explosé, le poste de police a explosé, là où il y a les pompiers, ça a explosé. Il n'y a plus de commerce, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Donc il faut faire un choix. Elle n'a pas d'autre choix si elle a des enfants que de quitter la zone.
Près de 5000 personnes, comme Marie et sa famille, sont arrivées à Nassau depuis la réouverture il y a 3 jours des vols réguliers entre la capitale bahaméenne et les îles ravagées par Dorian.
C'était Thibault Lefebvre accompagné de Gilles Gallinaro. J'ajoute que le programme alimentaire mondial, le PAM, estime qu'un habitant sur 5 a actuellement besoin d'une aide urgente aux Bahamas. Cela représente 70 000 personnes. C'est le 3e départ en 2 ans et demi. Le conseiller à la sécurité national aux États-Unis a une fois encore été écarté. John Bolton était de plus en plus souvent en désaccord avec Donald Trump, partisan d'une ligne dure face à l'Iran notamment. Selon certains analystes, ce limogeage pourrait donc permettre une plus grande ouverture américaine envers Téhéran. Téhéran justement qui voit le signal clair que la campagne de sanctions américaine est un échec. Cela anéantirait toute chance de paix, mènerait à une dangereuse escalade. Les réactions sont déjà nombreuses après la promesse de campagne du Premier ministre en Israël. Benjamin Netanyahou affirme qu'en cas de victoire aux législatives la semaine prochaine, il annexera la vallée du Jourdain, c'est-à-dire 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 67. Un engagement pris solennellement hier, Frédéric Mettezo.
Baguette de professeur à la main et carte de la région derrière lui, Benjamin Netanyahou a rejoué le même rôle qu'aux élections d'avril dernier. D'abord, son service de presse annonce une déclaration dramatique dans quelques heures. Puis il évoque l'annexion d'une partie de la Cisjordanie et il se replace au centre du jeu en obligeant ses opposants à réagir. Ainsi, le mouvement bleu-blanc, son principal concurrent, estime que Netanyahou veut surtout annexer les électeurs. Mais son leader Benny Gantz considère aussi que la vallée du Jourdain fera éternellement partie d'Israël. À une semaine d'élections sans doute serrées, le Premier ministre candidat veut remobiliser l'électorat de droite, mais cette annonce télévisée de l'après-midi pourrait vite être occultée par les images des réseaux sociaux hier soir. Un Bibi évacué en plein meeting à Ashkelon dans le sud du pays à cause de roquettes tirées depuis Gaza. Des images pas forcément à l'avantage du monsieur sécurité d'Israël.
Benjamin Netanyahou candidat donc à sa succession pour des élections qui auront lieu mardi prochain. Climat, technologie, démographie. Voici les grands défis qu'aimerait relever la nouvelle présidente de la Commission européenne. L'Allemande Ursula von der Leyen a présenté hier sa nouvelle équipe, avec notamment la Danoise Margrethe Vestager pour affronter les géants du numérique, le Néerlandais Frans Timmermans au front, lui, pour sauver le climat, et la Française Sylvie Goulard, elle s'est vue attribuer le portefeuille du marché intérieur. Une équipe saluée dans l'ensemble, mais il y a tout de même quelques bémols concernant notamment un nouveau poste, Johanna Hochstein.
Ursula von der Leyen se serait certainement passée de ce début de polémique, l'attribution d'un portefeuille sur les questions migratoires, intitulé « Protection du mode de vie européen », a fait bondir les eurodéputés de gauche, Raphaël Glucksmann, socialiste français.
C'est le retour, en fait, du ministère de l'identité nationale de Sarkozy à l'échelle européenne. C'est une capitulation en race campagne devant les populistes et les nationalistes qui gagnent du terrain en Europe. On ne traite pas des questions migratoires comme cela. Ursula von der Leyen a eu des mots plus humanistes devant le Parlement pour être adoubée. Eh bien, il va falloir revenir au discours originel, sinon ça ne passera pas.
La Française Sylvie Goulard pourrait, elle aussi, être égratignée lors de son audition devant le Parlement européen au sujet des soupçons d'emploi présumé fictif sur un de ses assistants quand elle était eurodéputée. Voilà pour les bémols. Pour les points positifs, les parlementaires saluent le respect de la parité homme-femme. Pour le Français de la liste Renaissance, Pascal Canfin, c'est une commission qui fait de l'écologie une priorité.
C'est la première fois que la Commission européenne aborde les sujets climatiques, notamment de manière totalement transversale. C'est-à-dire que le premier vice-président de la Commission européenne a en charge ce qu'on appelle ici le Green Deal, c'est-à-dire la transition écologique, et il a sous sa responsabilité le climat, mais aussi les transports, l'agriculture, les fonds structurels qui vont vers les pays d'Europe centrale. Donc il aura tous les leviers pour opérer vraiment la transition écologique dont on a besoin.
Prochaine étape donc, l'audition des candidats commissaires désignés devant le Parlement européen.
Et notons qu'il n'y a pas de candidat britannique face au flou ambiant concernant le Brexit. Hier, le Premier ministre Boris Johnson affirmait vouloir se démener pour trouver un accord de divorce avant le sommet prévu à la mi-octobre à Bruxelles.
8h07 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les représentants des supporters de football vont-ils parler homophobie aujourd'hui?
Ils sont en tout cas invités, Guillaume, par la Ligue de football professionnel à une réunion sur ce sujet. Depuis des semaines, 5 matchs ont été interrompus à cause d'insultes homophobes. La sanction n'a pas convaincu le président de la fédération, Noël Le Graët, qui souhaite utiliser cette mesure seulement en cas d'insultes racistes. Le débat est reparti de plus belle jusqu'à l'intervention hier après-midi du président de la République lui-même, appelant au calme et au dialogue. Une polémique qu'a connue les Pays-Bas il y a quelques années. Le pays est parvenu aujourd'hui à endiguer le problème, Guillaume Batin.
Au début des années 2000, le championnat de première division néerlandais est marqué par des débordements de toutes sortes. Bagarres sur les aires d'autoroute entre supporters, cris racistes, banderoles et chants homophobes dans les tribunes. Renate est une supportrice transgenre du club de La Haye. Avant de changer de sexe, elle a très mal vécu les insultes dans les tribunes.
Ça a été très dur d'entendre toutes ces insultes à l'ADO d'Enar Stadium. J'ai vraiment été blessée et j'ai longtemps été très en colère.
Mais en 2012, le président de la KNVB, la Fédération néerlandaise de football, tape du poing sur la table. Michael Van Praagh réunit tout le monde, supporters, président de club et arbitre.
Un football, il faut idrer. D'où que vous veniez, quelle que soit votre religion, votre orientation sexuelle, quelle que soit votre apparence physique, le football vous appartient. Notre attention est constante dans le football professionnel. Mais je n'oublie pas les 1 200 000 licenciés qui jouent dans 3 500 clubs amateurs.
Après des mois d'échanges et de discussions, la fédération présente un plan d'action en 12 points qui repose sur une sanction, les interruptions de match. Quant à la formation et à l'éducation, elles sont confiées à des associations comme la fondation John Blankenstein, du nom du premier arbitre international à faire son coming out dans les années 80. Sa sœur Karine la préside aujourd'hui.
Nous avons organisé de nombreux ateliers de travail. Il n'y a rien de mieux parce que l'on se regarde tous les yeux dans les yeux. Alors on leur fait comprendre qu'on a tous les mêmes droits, que l'on doit se respecter et à ce moment-là, on devient une équipe.
Dans un pays qui a autorisé le mariage homosexuel 15 ans ans avant la France. Cela n'étonne plus personne de voir chaque année sur les canaux d'Amsterdam le bateau de la Fédération néerlandaise de football défiler à la Gay Pride aux côtés des drag queens de la police et des pompiers.
Et ce n'est pas encore le cas en France, la France où une réunion est donc prévue cet après-midi au siège de la Ligue professionnelle de football. La loi énergie-climat doit être définitivement adoptée ce mercredi à l'Assemblée nationale. Elle fixe comme objectif la neutralité carbone à l'horizon 2050 et la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. Les centrales nucléaires maintenant, elles tournent à plein régime et voici une nouvelle inquiétante. EDF a fait état hier de défauts potentiels sur certains composants de ses réacteurs, des composants fournis notamment par Framatome et qui pourraient ne pas avoir été fabriqués correctement. Une enquête est en cours car ce type de problème peut être très dangereux, souligne Yves Marignac, il est spécialiste du nucléaire chez Wise.
Ce qui est en cause cette fois-ci, c'est un procédé assez complexe de réchauffage de pièces de gros équipements. On parle de générateurs de vapeur, des réacteurs. Et la conséquence, c'est d'altérer les propriétés mécaniques du matériau et donc de remettre en question la capacité de ces pièces à résister à ce qu'on appelle le risque de rupture brutale, c'est-à-dire d'avoir la garantie que ces pièces en service, ne peuvent pas se rompre. Il y a une perte de maîtrise par rapport à la complexité technique de ces objets, des réacteurs, de leurs équipements. Il y a une perte de contrôle par rapport aux garanties que l'industrie nucléaire se doit d'apporter aux populations sur la qualité et la sûreté de ces installations.
Et en attendant d'éventuels éclaircissements, l'action d'EDF en bourse chutait hier de près de 7%. Le gouvernement interdit aujourd'hui deux nouvelles substances agissant comme des néonicotinoïdes, une mesure destinée toujours à protéger les colonies d'abeilles en déclin. Les urgentistes maintiennent la pression sur le gouvernement. La CGT organise aujourd'hui une manifestation à Paris quand le collectif Interurgence reste mobilisé et prépare de son côté une journée d'action pour le 26 septembre. Au surlendemain des annonces d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, la grève donc se poursuit, Fiona Mogadam.
Ce sont tous les services hospitaliers qui sont appelés à se mettre en grève et même au-delà, les EHPAD, la psychiatrie, les médecins ou encore les pompiers. Sébastien Delavoux, du collectif CGT des SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, est venu apporter son soutien au mouvement lors de l'Assemblée Générale hier, car les problèmes d'effectifs aux urgences ont des conséquences directes sur son métier de pompier.
Aujourd'hui, quand les sapeurs-pompiers attendent une heure aux urgences en attendant qu'on prenne le patient qu'ils amènent, c'est parce qu'il n'y a pas d'aval et qu'il y a des problèmes de personnel, des problèmes de moyens au sein des hôpitaux. Faut imaginer que nous, on est vraiment dépendants des autres services. Le SAMU pour la régulation, les urgences pour l'admission des victimes. Puis il y a eu tout un tas de réformes territoriales ou de réformes des différents services. On s'est retrouvé avec bien souvent des sapeurs-pompiers qui finissaient par assurer les missions que les autres n'avaient plus les moyens d'assurer.
Et il n'y a pas qu'en amont que le manque de moyens aux urgences a des conséquences. Le collectif Interurgence estime que c'est tout l'hôpital qui en pâtit. Anaïs est infirmière au centre hospitalier de Monceau-les-Mines en Saône-et-Loire.
On nous dit souvent que les urgences, c'est la vitrine de l'hôpital et après faut rentrer dans la vitrine et rentrer dans le magasin et à un moment donné de toute façon les patients qui sont aux urgences ils se retrouvent après dans les services à notre niveau en hôpital de proximité où on nous a fermé la chirurgie, la maternité, la pédiatrie où on a 12 lits cardiologiques qui sont fermés, à un moment donné toutes les équipes sont en souffrance et bien sûr que tout le monde se retrouve dans les revendications du collectif.
Des revendications qui restent donc inchangées et que le collectif ne manquera pas d'exprimer dans les prochaines semaines puisqu'un appel à manifester est lancé pour le 26 septembre prochain.
Le livre de Tariq Ramadan sera bien publié sur décision de justice. Une femme l'accuse de viol et voit son vrai nom mentionné 84 fois dans l'ouvrage de l'islamologue. La justice a reconnu un préjudice, mais elle estime qu'une interdiction porterait une atteinte excessive à la liberté d'expression de Tariq Ramadan. Son livre paraît donc en ce mercredi 11 septembre. Un 11 septembre, synonyme de souvenir aux États-Unis, 18 ans après les attentats à Manhattan et Washington qui avaient coûté la vie à 3000 personnes. Le bilan de ces attaques, toutefois, pourrait être beaucoup plus lourd à cause d'un nuage de cendres et de débris. Il avait enveloppé le sud de Manhattan et les autorités commencent aujourd'hui à comprendre l'ampleur des conséquences. Un monument est même dédié à ces nouvelles victimes, Loïc Loury.
6 monolithes de granit inclinés comme des rampes et cerclés de métal provenant des tours jumelles. La clairière du mémorial se trouve à quelques pas des deux fontaines colossales érigées en mémoire des victimes du 11 septembre. Mais au contraire de celle-ci, aucun nom gravé dans la roche, car des victimes, le nuage mortel pourrait en faire des milliers dans les décennies à venir. Ils méritent qu'on se souvienne d'eux, dit Émilie, une touriste de Cincinnati.
Ils étaient tellement nombreux, tous volontaires pour la plupart. Ils sont venus pour aider, pour essayer de trouver les survivants, des restes, pour apporter des réponses aux familles. Alors oui, ils méritent vraiment qu'on se souvienne d'eux.
Et New York, en effet, compte ses malades à retardement. Près de 100 000 pompiers, policiers ou habitants de Manhattan se sont inscrits à un programme de soins. 12 000 d'entre eux souffrent d'un cancer. Le fonds d'indemnisation qui leur est dédié lui a failli s'épuiser cet été. Ces victimes ont été oubliées, avait affirmé John Stewart, ancien animateur de télévision, désormais défenseur de leur cause. Il s'était exprimé les larmes aux yeux devant une commission du Congrès très clairsemée.
Derrière moi, une pièce pleine de volontaires du 11 septembre. Et en face de moi, un congrès presque vide. Malades et mourants, ils se sont déplacés jusque ici pour ne parler à personne. C'est une honte. C'est une honte pour ce pays. Une tache sur cette institution. Vous devriez avoir honte de vous, pour ceux qui ne sont pas venus, mais vous ne le serez pas parce que visiblement, plus personne ne prend ses responsabilités dans cette chambre.
Et ce message depuis apporté, le fonds en question est désormais ouvert jusqu'en 2090.
Et en ce 11 septembre, retrouvez par ailleurs un nouveau podcast original, podcast France Culture, intitulé « Mécanisme du complotisme ». La série cette semaine justement est consacrée au 11 septembre. Après le sud, c'est le nord de la France qui est touché par les averses. Ailleurs, le soleil est de retour avec 14 degrés à Nantes, 17 à Paris ce matin et Besançon et 25 à Nice. Guillaume.